Radio Kaléidoscope 97 FM présente Au ras des rues, l'émission qui prend de la hauteur.
Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 11 mai, vous êtes à l'écoute d'Au ras des rues, l'émission qui prend de la hauteur. Nous sommes sur Radio Kaléidoscope, la radio associative située au village olympique. Aujourd'hui, l'équipe habituelle avec Morgane. Bonjour Morgane.
Bonjour.
Marie-France. Bonjour Marie-France.
Bonjour.
Antoine.
Bonjour.
Et à la technique, Pato, épaulé par Gaël et Yannick. Alors, si vous voulez retrouver les podcasts de cette émission, ils seront disponibles sur le site du Crieur de la Villeneuve, www.lecrieur.net, d'ici quelques jours. Pour nous contacter, nous avons un mail auraderues@lecrieur.net et puis nous avons une page Facebook auraderues-rks97fm. Alors, au sommaire de cette émission, nous allons parler de l'Assemblée des Mal-Logés, de la Batoukavi, d'un lieu d'accueil par enfant et puis du budget participatif. Mais avant de commencer, nous allons parler avec Vincent Simon, qui est coordinateur à la MJC Prémol. Alors la MJC Prémol, où est-ce qu'elle se situe ?
Bonjour, la MJC Prémol est située donc au village olympique, en face de la Poste, avenue Marie-Rénoir. Donc c'est une structure qui est ancienne sur le quartier et qui est constituée de trois pôles, donc un pôle adulte, un pôle théâtre et un pôle jeunesse.
Et vous recevez combien d'enfants ?
Alors cette année, 280 jeunes sont adhérents à la MJC. Donc on a environ 50 primaires qui assistent à l'accompagnement scolaire et tous les autres jeunes ont entre 11 et 17 ans et viennent à la fois pour l'accompagnement scolaire et les activités culturelles, sportives, citoyennes et de loisirs.
Et c'est vous qui êtes le responsable du secteur jeune?
Voilà, tout à fait.
Coordination des activités?
C'est ça.
Est-ce qu'on peut parler des différentes activités qui sont proposées?
Oui, bien sûr. Du coup, l'objectif de la MJC Prémol, c'est vraiment de recevoir le maximum de jeunes, de les accueillir dans des bonnes conditions, de créer des relations de confiance avec eux, pour ensuite les faire participer à des activités qui puissent les ouvrir sur de nouveaux environnements. Donc, on fait beaucoup d'activités sportives. On a notamment un créneau futsal, un créneau d'ultimate frisbee, beaucoup d'activités à la montagne, pour faire de la via ferrata, de l'alpinisme, de l'escalade. Beaucoup d'activités également autour des activités de plein air, du type VTT, canoë. Donc ça, c'est un grand volet. On a un gros volet aussi autour de la culture. Donc on a trois groupes de danse de modern jazz, un groupe de raga, un groupe de hip-hop, des jeunes qui montent une émission radio, donc comme ici, de manière autonome. Et on essaye de construire des parcours d'initiation au spectacle. Et du coup, on travaille avec les MC2, l'Espace 600 et d'autres salles, et notamment le Théâtre Prémol, pour que les jeunes aient l'habitude d'aller au théâtre. Un volet important également, c'est autour de la citoyenneté, parce qu'on stigmatise souvent les jeunes de quartier, et en fait, on se rend compte qu'ils ont aussi envie de faire des actions pour les autres. Donc, un programme d'action de bénévolat est mené tout au long de l'année. Donc, dernièrement, des jeunes ont notamment préparé un repas pour l'association Le Fournil. Ils peuvent également faire des actions.
Juste Le Fournil, on peut peut-être rappeler ce que c'est comme association.
C'est une association qui reçoit des personnes en grande précarité et qui propose aux convives des repas le midi. Voilà, on a aussi travaillé avec des associations pour les personnes handicapées ou également que les jeunes participent à des événements du quartier. On organise également des séjours, donc tout au long de l'année, que ce soit à l'international ou à la montagne ou à la mer. Là, les jeunes préparent notamment un séjour en Corse et un séjour en Croatie. Et une expédition en montagne de 4 jours en alpinisme, ça va être une grande expérience qu'on fait en partenariat avec la yoga.
Yoga.
Donc Yoga, c'est l'association qui s'occupe du futsal sur le village.
On avait reçu ici.
On avait reçu Bilal il y a quelques semaines.
Tout à fait. Mmh. C'est important de savoir que vraiment tous les partenaires du quartier travaillent en osmose et on travaille vraiment sur le parcours du jeune. C'est-à-dire que notre job, c'est que le jeune, pendant son temps libre, puisse faire des choses structurées, s'épanouir, pour que plus tard, il ait confiance en lui et soit acteur de sa vie. Voilà. Et pour faire avancer la MJC, on a aussi besoin de créer des événements. Parce qu'on sait que les événements sont rassembleurs, permettent aux jeunes de se rencontrer, permettent aux jeunes aussi de croiser des adultes, et ça met de la vie sur le quartier. Ça montre aussi qu'il est possible de créer des événements
parce
positifs.
Parce que là, c'est que des jeunes du quartier, en fait.
Là, c'est principalement que des jeunes du quartier. On a, c'est vrai, des difficultés à intégrer des jeunes qui sont d'autres quartiers. Et on travaille justement à créer des partenariats avec les MJC de Cessin, de Crolles, de Champagné.
Donc tout à fait en dehors de l'agglomération.
Voilà, pour essayer de créer des rencontres, on va dire, interculturelles, on va oser le terme. Et on a travaillé avec l'Angleterre, on travaille aussi avec d'autres MJC de quartier, des Baladins, de la Cordée, de Tessère. Vraiment, notre but, c'est qu'ils soient capables d'entrer en contact avec tout type de jeunes. Parce qu'on sait, quand on habite dans des quartiers comme ça, c'est parfois pas toujours simple.
Oui, on avait la directrice du théâtre nous avait expliqué, c'était un peu le même objectif aussi, d'avoir une bonne assise sur le quartier et de pouvoir...
Moi, je pense qu'il faut vraiment une bonne relation de confiance, qu'ils ouvrent la porte, en fait, ils appellent souvent ça leur seconde maison, qu'ils se sentent à l'aise et qu'ensuite ils aient suffisamment confiance pour fermer les yeux et dire « Ok, on vient avec vous, on vous fait confiance. » Et là, on peut les amener un peu n'importe où. Ils se retrouvent dans des endroits et au final, ils ont beaucoup de capacités en termes de sociabilité, de spontanéité. Donc, en général, voilà, une fois que le cadre est posé, ils présentent vraiment de bonnes qualités.
Et tu parlais d'événements fédérateurs, d'événements rassembleurs. Oui. Donc, il y en a certains en particulier.
Voilà, donc il y en a un qui arrive bientôt, qui s'appelle le VO de Max, qui aura lieu le 28 mai, de 14h à 21h, juste derrière la MJC sur le City Stade.
Pourquoi ce titre ?
VO de Max, c'est un exercice physique en général qu'on propose aux élèves et qui permet de mesurer la capacité à courir longtemps avec une grande intensité. Donc, c'est un peu le but de cet événement, c'est que ça dure suffisamment longtemps et que ça soit intense. Que chacun puisse trouver sa place, que ce soit les filles, les garçons de 11 à 17 ans. Donc il y a tout un programme autour du sport, de la culture. Donc en termes sportifs, on aura des animations qui sont proposées par la cellule sport et quartier. Donc du judo, du karaté, on a le club d'ultimate frisbee qui sera là, les big band bowlers qui seront là aussi pour proposer une initiation basket. Au niveau culturel, on travaille actuellement avec l'association Contre-Attaque pour proposer un atelier de sérigraphie. Au niveau culturel également, on aura une scène ouverte qui sera proposée. Donc la Batoukavi sera présente, l'association Répercussion sera présente aussi. Et plusieurs jeunes chanteurs du quartier qui ne sont pas forcément intégrés dans une association, mais qui viendront se présenter ici. Ce sera l'occasion aussi pour nous de présenter le groupe de hip-hop qui souhaite se présenter. Et tout au long de la journée, il y aura aussi les conseillers de la mission locale qui sont présents, les éducateurs de prévention, nos partenaires de la Joga, de l'USVO. Vraiment, l'objectif aussi, c'est de croiser les jeunes, parce qu'on est juste avant l'été, pour leur proposer justement les jobs d'été, les bourses BAFA, qu'ils aient toutes les informations disponibles pour les aides au départ en vacances autonomes. Mmh. Voilà, et c'est vraiment dans ces événements-là où on peut se dire, ah bah tiens, lui, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas croisé, comment tu vas, on prend des nouvelles. On peut aussi enchaîner ensuite sur un suivi plus individuel. Donc voilà, c'est pour ça que c'est intéressant pour...
Donc le lieu et la date.
Donc le 28 mai, donc ça sera de 14h à 21h, et juste derrière la MJC, donc où il y a le City Stade et le nouveau stade synthétique du village olympique.
Et oui, on en reparlera dans la suite de l'émission, mais le 28 mai, c'est aussi la fête de quartier à la Villeneuve, donc il va y avoir un peu de concurrence.
Ah mais du coup, c'est l'occasion d'aller et d'un côté et de l'autre.
Et de l'autre, voilà. Traverser le tram. Et tout à l'heure, tu parlais de radio.
Oui.
Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ?
Oui, bien sûr. Alors, c'est trois jeunes qui s'appellent Jérémy, Ambre et Florian qui sont à l'initiative de ce projet, c'est-à-dire qu'ils sont venus me voir au début de l'année à la MJC en disant « on veut monter une web radio ». Donc, grâce au soutien de la CAF, on a monté un appel à projet, on a réussi, et de News FM également, qui nous ont prêté le matériel pendant un moment, on a réussi à s'équiper. Et du coup, chaque lundi, les jeunes enregistrent pour passer l'émission le samedi soir. Donc voilà, c'est une web radio, si vous...
Et j'ai
pas l'adresse exacte, c'est Radio Olympique, voilà.
Tout attaché. Je crois, oui, voilà. Radio Olympique.
Et du coup, voilà, c'est vraiment une très belle expérience, parce que c'est les jeunes qui travaillent eux-mêmes leur écrit, et ils ont fait beaucoup de progrès, beaucoup de présentations, donc j'espère qu'on pourra les inviter à Radio Kaléidoscope.
C'est prévu, je crois.
Oui, ouais. Puis moi, il m'avait invité personnellement au titre de crieur de la Villeneuve à une de leurs émissions.
C'est ça.
La toute première, non ?
C'était la toute première, et ce qu'il faut dire, c'est que c'est quand même très rare dans ces quartiers-là que des jeunes puissent porter une initiative de manière aussi autonome. Et du coup, voilà, j'espère que ça va faire des petits.
Et surtout que c'est en lien avec le collège, du coup.
Tout à fait. Alors, on est en lien avec le club journalisme qui est mené par le CDI du collège.
Okay. Moi, j'avais une question plus générale par rapport aux activités avec les jeunes. Est-ce qu'il y a une implication des habitants en général du quartier dans ces activités, ou comment est-ce que se fait le lien avec...
Avec les adultes,
les adultes,
dire.
Et les... oui. Mm-hmm.
Alors, on sait que l'adolescence est un moment assez charnière, c'est-à-dire que ce n'est pas le moment où on adore être entouré d'adultes sans cesse.
Non.
Mais on essaye au maximum, lorsque des adultes ont envie de s'impliquer avec les jeunes, de les intégrer et de créer les conditions de la rencontre. Je peux parler notamment d'une expérience avec le Savon Noir, qui est une troupe en résidence sur le quartier, et où la coordinatrice de la troupe est venue rencontrer les jeunes plusieurs fois pour écrire des textes. Ils ont ensuite rencontré les artistes. Ça a toujours donné lieu à des rencontres qui sont extraordinaires, des dires de ceux qui participent. Et donc voilà, il faut juste simplement se donner les conditions pour créer la rencontre. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément si simple de se rencontrer dans l'espace public ou dans une salle et dire bonjour les jeunes, comment vous allez. Par contre, si on arrive à trouver un biais par lequel on se rencontre et par lequel on peut échanger... tout devient possible.
Oui.
Donc j'invite tous les gens qui ont envie de travailler avec les jeunes à venir nous voir pour voir ce qui est possible.
L'idée derrière ma question, c'était est-ce que le regard des adultes vis-à-vis des jeunes peut changer, surtout dans ce quartier.
Après, quand on parle,
quartier, hein,
quand on parle des jeunes, ils sont tellement différents.
Oui,
c'est-à-dire
voilà.
Que on n'a pas un jeune de quartier, on a une vingtaine de typologies de jeunes de quartier différents. Et les jeunes qui peuvent rencontrer actuellement des difficultés dans leur vie personnelle et qui du coup peuvent faire vivre des difficultés au voisinage, ils sont une minorité.
Oui.
Et je pense vraiment que ce regard-là, c'est dur d'être bienveillant quand il y a beaucoup de nuisances et que c'est difficile à vivre au quotidien, mais nous, on travaille pour que ces jeunes essayent de remettre le pied à l'étrier. Et parfois, ça prend un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, et le jeune a le déclic et a envie de retourner au travail parce qu'il s'ennuie. Et... donc voilà. Moi, ce que j'ai envie de dire aux habitants, c'est qu'on essaye de faire au maximum et ça va au rythme des jeunes.
Oui, d'accord. Mais c'est important aussi que les habitants sachent ce qui se passe, parce qu'ils peuvent penser que ces jeunes sont à l'abandon ou quoi, alors qu'en fait, tous sont connus dans le quartier.
Ouais. Hein. Tous les jeunes qui sont dans l'espace public sont connus des animateurs ou des clubs de foot. Il n'y a aucun jeune qui n'est pas en lien avec des professionnels.
Oui. Mmh.
Il y a 15 jours, moi, j'ai rencontré le directeur de la Cordée, qui est donc une association d'éducation populaire sur le quartier de l'Arlequin, donc l'équivalent un peu de la MJC Prémol à l'Arlequin, à la Villeneuve. Et il me parlait des baisses de subventions qui les avaient obligés à couper tous les ateliers concernant les ados, en fait. Mmh. Et comment ça se passe à la MJC Prémol, vous ?
Alors, nous, on n'est pas du tout dans cette configuration. On est plutôt bien suivi au niveau des subventions par l'ensemble des partenaires, notamment la mairie, qui ont reconnu le travail qui a été fait les dernières années. Du coup, aujourd'hui, on peut dire que sans avoir beaucoup d'argent, on arrive tout de même à développer des ateliers intéressants.
Donc, tout va bien pour vous ?
Pour l'instant, oui.
Et sur plus spécifiquement donc sur les ados, vous avez jusqu'à quel âge en fait vous accueillez des
normalement on doit les accueillir jusqu'à 17 ans, mais nos portes sont ouvertes pour rencontrer de plus grands. Et une à deux fois par jour, j'ai toujours un jeune entre 18 et 25 ans qui vient pour discuter un peu, avec qui on ressort des vieilles photos, et on ferme pas la porte. C'est-à-dire que si un jeune il vient à l'accueil et qu'il a 20 ans et qu'il est dans une dynamique positive, il sera toujours le bienvenu.
D'accord.
Tu avais d'autres questions, Marie-France ?
D'autres questions, non, mais on va suivre les activités.
Donc, on rappelle juste la date de VO2 Max.
Le 28 mai, donc tout le monde est le bienvenu, derrière la MJC, donc près du City Stade, à partir de 14h.
Eh bien, Vincent, merci beaucoup pour d'être venu à la radio. On va faire une pause musicale avec le groupe Elmer Footbeat. Alors, dans le foisonnement du rock alternatif de la fin des années 80, il y avait la Mano Negra, les Garçons Bouchers, les Vampas, et puis il y avait leur frérot un peu cradingue, c'était les Elmer Footbeat. Ils ont été désignés meilleur groupe de l'année aux Victoires de la Musique 1991, et le groupe s'est séparé en 1993, avant de se reformer il y a 10 ans. Alors, ils seront en concert à la Bifurque le jeudi 12 mai à partir de 20h30. Le prix des places va de 10 à 15 euros. Et on écoute le titre « La caissière de chez Leclerc » d'Elmer Footbeat.
C'est la caissière de chez Leclerc.
Voilà, c'était le titre La caissière de chez Leclerc du groupe Elmer Footbeat. C'est l'heure de passer à l'agenda du crieur de la Villeneuve. Alors, à l'agenda, jeudi 12 mai, à partir de 18h, aura lieu une réunion pour l'ouverture d'un local vélo associatif sur la Villeneuve. Alors, ça fait plusieurs mois qu'on parle de ce local vélo. Finalement, il voit le jour. Il s'appellera Pignon sur Roue et il sera situé donc au local d'Osmose, de l'association Osmose, situé au 9 Allée des Frênes. Et donc, ils organisent une réunion d'information donc jeudi 12 mai, donc demain, à partir de 18h. Et sachez que la permanence aura lieu tous les mardis de 16h à 19h. Et puis sinon, vendredi 13 mai aura lieu à partir de 16h30 jusqu'à 21h. Une fête de la culture et de la poésie, ça aura lieu à la Maison des Habitants des Baladins, donc c'est au 31 Place des Géants. Voilà, il y aura des ateliers d'écriture, un apéritif et un repas partagé, ainsi qu'une scène ouverte avec la participation d'Yves Godin, qui est donc un poète installé à la Villeneuve. Et puis juste pour rappeler que la fête de quartier, on en a parlé en tout début d'émission, la fête de quartier de la Villeneuve aura lieu le samedi 28 mai. Voilà, ça aura lieu toute la journée avec des stands associatifs, des jeux, des animations pour les enfants. Donc rendez-vous pour cette journée conviviale. Marie-France, vous voulez rajouter quelques dates à l'agenda ?
À l'agenda du village olympique, donc des ateliers parents-enfants qui sont organisés à la Maison des Habitants. On peut signaler celui du mercredi, donc aujourd'hui à 15h, l'atelier cabane lecture. C'est avec des petits-enfants dès la naissance, on précise bien. C'est partager un moment de lecture en plein air sous la cabane qui est tout près. Et le mercredi 18 mai à 15h également, c'est un spectacle, les enfants sont invités à un spectacle à la bobine. Les trois petits cochons moustachus, Mix, Max et Mux, sont trois petits cochons moustachus qui s'en vont découvrir le monde. Mais quand le loup arrive, il pète si fort que leur cabane s'envole. Voilà, départ à 14h15 de la Maison des Habitants Prémol et à partir de 2 ans, on peut emmener les enfants.
Donc après voilà. Riri, Fifi, Loulou, c'est Mix, Max et Mux.
Mux, voilà. On peut signaler aussi que le jeudi 12 mai, donc demain à 18h à la Maison des Habitants, il y aura une réunion interstructure, cette réunion qui regroupe donc MJC, Union de Quartier, Maison de l'Enfance, etc., pour la préparation de la fête de quartier du village olympique et de Vigny-Musset qui aura lieu le 11 juin, donc 15 jours après la fête de la Villeneuve. Voilà, donc c'est les quartiers village olympique et Vigny-Musset. Il y aura des activités sur les deux quartiers et bon, on peut signaler au passage que le quartier Vigny-Musset fête cette année ses 20 ans.
Et est-ce qu'il y aura un thème pour cette fête de quartier ?
Je crois pas. Il y aura les activités habituelles, brocantes, stand associatif le matin, repas républicain avec des associations de quartier qui le préparent. L'après-midi, des jeux sur l'espace du square de Vigny-Musset. Et puis, une petite fête, un petit bal en plein air, à nouveau sur le quartier du village olympique en soirée. Voilà. Oui, c'est tout pour l'instant.
Eh bien, merci Marie-France. Juste une petite brève pour vous annoncer qu'on en a parlé aussi au cours de cette émission, que la Batucavi, la Batucada des jeunes de la Villeneuve, a réussi sa collecte sur le site KissKissBankBank, qui voulait récolter 25 000 euros pour pouvoir partir aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro. Ils ont réussi à recueillir les 25 000 euros. Donc normalement, ils pourraient partir cet été à Rio pour jouer sur la plage de Copacabana.
Bravo, bravo.
Pour jouer pour l'ouverture, hein. C'est pas pour aller regarder les JO qui font la collecte.
En plus, il y a un projet collaboratif avec les favelas de Rio. Donc là, c'est un beau projet et félicitations à eux. Marie-France, vous voulez nous parler d'un lieu d'accueil parents-enfants sur le quartier du village olympique.
Voilà, un lieu d'accueil parents-enfants qui s'appelle Hirondelle, Hirondelle au singulier, et qui est ouvert le mardi et le vendredi, ainsi que le dernier samedi du mois, de 9h à 11h45. C'est un lieu apparenté à ce qu'on appelait autrefois les maisons vertes, hein. Je pense que ça existe toujours. C'est un lieu pour se détendre, se rencontrer, jouer avec les enfants dans un espace de jeu adapté, faire des pauses, échanger, c'est un lieu d'accueil très libre, il n'y a pas d'inscription demandée, on peut venir quand on veut et le temps qu'on veut. Alors, à qui ça s'adresse ? Ça s'adresse aux futurs parents, ça s'adresse aux enfants de la naissance jusqu'à 6 ans. Il faut que les enfants soient accompagnés pendant la durée de l'accueil par un parent ou par un adulte responsable. Et qu'est-ce qu'on vient y faire ?
Donc, des rencontres privilégiées. On vient jouer en compagnie d'autres enfants, partager, échanger avec d'autres parents. Et le lieu est donc gratuit et anonyme. Et qui est-ce qui s'occupe de ce lieu-là? Il y a une équipe de professionnels, d'accueillants professionnels. Deux accueillants sont toujours présents. Ils facilitent les échanges par l'écoute, la disponibilité et la convivialité. Donc, c'est le mardi et le vendredi, ainsi que le dernier samedi du mois, de 9h à 11h45, Hirondelle, un lieu d'accueil par enfant au village olympique.
Et c'est situé où ?
C'est situé à côté de la maison des habitants Prébol, une petite maison, ancienne ferme, à côté de...
L'ancienne ferme Prémol.
Prémol, oui. Je pense que c'est entre Prémol et la maison des habitants. Voilà.
Eh bien, merci Marie-France. On va faire une nouvelle pause musicale avec un peu de reggae, avec un chanteur français, il s'appelle Kissy Wet. La chanson, c'est Fleurs aux mille couleurs. Elle est extraite de l'album Ce que tu me donnes. Kissy Wet sera ton concert demain, jeudi 12 mai, à l'Empérage, à partir de 19h. Le prix de l'entrée varie de 10 à 12 euros. On écoute Fleurs aux mille couleurs de Kissy Wet. Voilà, c'était le titre Fleurs aux mille couleurs de Kissy Wet. On va parler aujourd'hui de budget participatif avec toi, Antoine. Alors, le budget participatif, c'est la mairie de Grenoble qui a fait un appel aux candidatures pour que les habitants puissent déposer des projets et éventuellement les financer.
Voilà, c'est ça. On a parlé un petit peu la semaine dernière avec le projet de four à pain qui était porté par la régie de quartier. Donc la régie de quartier Villeneuve, village olympique. Mais le budget participatif, c'est sur toute la ville de Grenoble. Et il y a eu clôture de dépose des projets vendredi dernier. Et il y a environ 150 projets qui ont été déposés.
Ce qui fait beaucoup.
Ce qui est quand même pas mal. Ensuite, on pourrait avoir une petite critique sur la répartition, on va dire, géographique de ces projets. Notamment le secteur Auclair-Mistral, il n'y a pas beaucoup de projets qui ont été déposés. Dans le centre, forcément, il y en a plus. Mais à la Villeneuve, il y a quand même eu, enfin sur le secteur 6, pardon, il y a eu une vingtaine de projets de déposés. Et on va pouvoir parler de ça, justement. Donc, je rappelle que la première étape, c'était la dépose des projets. Ensuite, le 21 mai, il y aura une première sélection de ces projets. Ils appellent ça la ruche au projet. Ça aura lieu à Alpexpo, donc au sud de Grenoble, pas très loin de la Villeneuve. Et ce sera donc le samedi 21 mai de 13h à 20h. Et l'idée, en fait, c'est puisque les 150 projets, ça va être difficile de tous les soumettre au vote en automne. Et là, l'idée, ce sera de présélectionner. En fait, l'année dernière, ça s'est passé, il y avait plusieurs tables. Il y avait à peu près 4 personnes par table. Et dedans, il y avait 2 porteurs de projets et 2 personnes qui étaient plutôt, on va dire, témoins. Ou en tout cas... qui faisait acte de...
Qui était plutôt neutre, on va dire.
Plutôt neutre, mais ils avaient quand même pour but de trancher, en fait, entre quel projet devait être sélectionné parmi les projets autour de la table. Et donc, ce qui fait que il n'y a plus qu'un des deux projets qui est sélectionné sur le tour autour de la table. Donc, on arrive à 150 projets déposés. Finalement, on peut imaginer qu'il y a 120 personnes qui vont défendre leur projet à la ruche au projet. Et puis, finalement, on se retrouve avec 60 projets pour finir, puisqu'on coupe la poire en deux, arriver à la ruche au projet. Donc, voilà, ça se passe comme ça.
Et avec... Donc, les gens pourront voter après parmi ces 60 projets.
Voilà. Et ce qui change avec l'année dernière, c'est que l'année dernière, on pouvait aller voter qu'à l'hôtel de ville de Grenoble. Donc, quand on regarde un petit peu, pareil, la répartition géographique des gens qui ont voté, c'était forcément beaucoup de gens du centre et pas mal Saint-Bruno, puisque d'ailleurs, ils ont remporté le gros lot l'année dernière. Hein, il y avait le gros projet, puisque je n'ai pas expliqué, mais il y a
avec
deux catégories
de
projets.
Oui.
Il y a des projets en dessous de 100 000 euros et un seul projet de plus de 100 000 euros qui est gardé pour un budget total de 800 000 euros. Et c'est le projet de réaménagement de la place Saint-Bruno qui a été gardée. Donc voilà. Mais il y avait eu notamment des incidents qui avaient un petit peu...
Il y avait eu quelques fusillades.
Voilà. Motiver les gens à donner aussi une nouvelle image et engager une nouvelle dynamique. Mais on va en revenir à la Villeneuve et au village olympique. Et toi, Marie-France, du coup, sur le village olympique, il y a l'Union de quartier qui a déposé des projets.
L'Union de quartier a déposé 2 projets. Un qui concerne des ruches. Des ruches sur les toits, voilà, donc ça c'est le descriptif. Dans le détail, je pense que c'est par la suite qu'il faudra préciser les choses, voir si c'est possible ou pas, dans quel quartier, si c'est sur Vigny-Musset, si c'est sur le village olympique. Et le deuxième projet, ce sont des jeux pour les enfants sur le chemin traversant qui se trouve dans le quartier Vigny-Musset. Voilà, donc... c'est les deux projets. On sait qu'il y a un autre projet qui a été déposé par Zora... un repère café, donc un lieu. Je crois qu'il existe. On a évoqué des locaux vides qui existent sur le quartier ou qui pourraient servir d'accueil pour ce repère café.
Repère café.
Il faut le prononcer à l'anglaise puisque c'est pour réparer. Donc là, ce serait pour réparer non pas des vélos, mais toutes sortes d'autres choses, de l'électroménager ou des choses comme ça. Voilà.
Oui, j'ai lu que c'était notamment pour lutter contre l'obsolescence programmée.
Alors, l'obsolescence programmée, qu'est-ce que c'est?
Eh ben, l'obsolescence programmée, c'est par exemple, vous achetez une imprimante et vous faites 1000 impressions et d'un coup, eh ben, elle n'imprime plus votre imprimante et vous changez l'encre et en fait, ça ne marche toujours plus. C'est parce que telle qu'elle a été conçue, on fait en sorte qu'elle ne puisse pas durer très longtemps et qu'on doive en racheter une autre ensuite.
Voilà.
Donc, ça marche avec les imprimantes.
Il y a une certaine pièce qui est dure qu'un certain temps, c'est ça?
Voilà, c'est ça.
Et parfois, il y a même des puce à l'intérieur qui comptabilise le nombre d'usages et à un moment donné qui bloque le fonctionnement, même si toutes les pièces marchent très bien.
C'est ça, il y a eu un scandale notamment avec les imprimantes. Et la première, ce qui est aussi le symbole de l'obsolescence programmée, donc pour vous dire, c'est les ampoules en fait. Les ampoules qui nous éclairent tous les jours. La première, une des premières ampoules, un des premiers modèles qui a été vraiment industrialisé, eh ben, elle est toujours allumée, elle est dans une caserne de pompiers aux États-Unis. Et en fait, on va dire, en gros, les fabricants d'ampoules se sont mis d'accord pour qu'elle ne dure plus que 10 000 heures, 2 ans, enfin voilà. Et on se retrouve avec devoir racheter les ampoules tous les 6 mois, puisqu'il y en a une qui grille forcément. Mais techniquement, on peut en fabriquer qui ne devrait plus tomber en panne.
Merci pour cette petite parenthèse sur l'obsolescence programmée. On peut peut-être revenir juste sur du coup, le Repair Café de Zora.
Oui, donc
Zora qui avait présenté cette émission d'ailleurs.
Oui, elle était venue au mois de mars. Donc c'est pour réparer, je pense, de l'électroménager, tout ça. Parce que sur Vigny Musset, il y a un Repair Café pour les vélos qui devait se mettre en place. Hein. On avait évoqué ça avec l'association Alfred, qui est une association culturelle du quartier Vigny-Musset.
Et donc, il y a des projets déposés pour le village olympique, et est-ce qu'il y en a aussi pour la Villeneuve?
Bien sûr, justement, sur la Villeneuve, il y en a un petit peu plus que sur le village olympique. C'était un peu plus dense sur la carte. Là, il y a une cartographie participative, un petit peu. On voit tous les projets qui ont été déposés. Et donc, sur la Villeneuve, donc, je parlais du four à pain, besoin d'une fontaine à côté d'un jardin partagé. Il y a un projet qui s'appelle un billet pour le lendemain. Le principe, c'est d'écrire un petit billet en fait sur un panneau pour que le prochain passant puisse le lire. Il y a des trucs de sport, terrain de boule, des passages pour renforcer un peu la sécurité là où il y a des voitures. Donc c'est un tout petit peu à l'extérieur du quartier. L'idée de faire une serre dans le jardin, notamment utiliser le solarium de la piscine, revalorisation du lac, une cuisine déployable. Il y a un projet qui concerne l'atelier vélo dont on parlait tout à l'heure, et je pense que c'est notamment pour l'équiper un peu plus. Décorer les murs de la place des Géants, des ruches aussi, enfin voilà, il y a pas mal de projets qui tournent autour de ça. Et moi, je voulais vous parler un peu plus précisément du projet de revalorisation du lac.
Lac de la Villeneuve, c'est ce lac artificiel qui est en plein milieu du parc.
Voilà, c'est ça. Et qui pose, donc qui est interdit à la baignade, mais qui, pendant l'été, devient en fait la pâte aux joueurs de tous les jeunes du quartier. Et donc l'idée qui a été déposée, c'est un petit peu, puisqu'il y a pas mal de parents qui s'inquiètent sur l'hygiène de l'eau notamment, il y a eu l'idée de faire une piscine qui pourrait se traiter par les mêmes techniques que les piscines naturelles. Donc en fait,
on pourrait se baigner dans le lac.
C'est ça, on pourrait se baigner dans le lac et il n'y aurait pas de problème d'hygiène dessus. Et pour assurer la surveillance, il y aurait l'idée d'installer les perchoirs de maître nageur pour qu'on puisse par la suite, dans des événements particuliers, employer un maître nageur pour qu'il puisse surveiller, balayer d'un regard l'ensemble du lac.
Avec des slips de bain comme dans Alerte à Malibu.
Oui, et puis la petite bouée là, vous voyez. et puis ensuite des petits équipements pour aller autour, du style toboggan, enfin voilà, vraiment qu'on rentre dans un imaginaire de la plage, notamment pour accompagner les projets comme Villeneuve Plage ou les autres initiatives qu'il peut y avoir. Voilà.
Donc Villeneuve Plage, juste pour rappeler, c'est ce projet d'organiser des ateliers, des jeux pour les enfants durant l'été.
Voilà, à l'image de l'été au parc, ça reprend un petit peu le nom. Paris-Plage aussi, mais bon, on fait ça en plus petit, à l'échelle du quartier. Et voilà, donc cette année, je ne vous donne pas encore trop d'infos, puisque le programme n'est pas complètement scellé, mais ce qui est sûr, c'est que pour le 9 juillet, il y aura bien un Villeneuve-Plage, et en association avec le Baratin notamment.
Et juste, cette idée de Villeneuve-Plage, elle était partie vraiment d'un constat que les personnes utilisaient en fait les alentours du lac comme une plage de manière, enfin tous les ans et depuis en fait la création du lac.
Oui, et le lac est vraiment un lieu convivial.
Voilà.
Il fait frais sous les arbres.
Oui, tout à fait. Et puis, historiquement, en fait, il y a déjà eu beaucoup d'activités qui ont été mises en place sur le lac. Des constructions de radeaux, on nous a raconté, des courses de canoë. Enfin, voilà, c'est pas du tout quelque chose qui date d'hier.
Très bien. Et Antoine, quand est-ce qu'on pourra aller voter, du coup, pour ces projets du budget participatif?
J'ai pas eu le temps de vous dire, en plus, par rapport à ce qui change par rapport à l'année dernière. C'est qu'au lieu d'être sur un week-end, le vote sur deux jours, ce sera toute une semaine. Donc ce sera du 10 au 15 octobre, enfin sur cinq jours en tout cas. Et ce ne sera pas forcément à l'hôtel de ville, mais dans n'importe quelle antenne de mairie et les maisons des habitants. Donc ce qui permet aussi de lutter contre cette inégalité qu'on a retrouvée. C'est-à-dire que finalement, c'est plutôt les gens du centre qui s'impliquent dans le budget participatif. Et pour rectifier le tir un petit peu, l'idée, c'est qu'on puisse voter aussi à côté de chez soi, que ça devient quelque chose de proximité.
Oui, et puis il faut reconnaître que les gens ont plutôt tendance à voter pour les projets qui les concernent directement.
Oui, je pense que c'est une petite critique qu'on peut faire du budget participatif, c'est que ça met une certaine concurrence entre les quartiers. Mmh. Et voilà, si on met, par exemple, par rapport à l'année dernière, je pense qu'on a finalement augmenté les inégalités qui existaient déjà entre les quartiers sud et puis les quartiers qui se rapprochent du centre de Grenoble.
Donc on fera une campagne de...
Voilà, mais c'est que la deuxième édition et voilà, et ça se construit aussi. Il faut être un petit peu indulgent par rapport à comment ça se fait et puis voir comment ça évolue avant...
Eh bien, merci Antoine pour ce point sur le budget participatif. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler à l'occasion de la ruche au projet. On va faire une nouvelle pause musicale avec le chanteur, le rappeur Bleu Russe, avec le titre « Le doute est viral », extrait de son disque « Pigeon » qui va sortir au courant de l'année. Bleu Russe, de son vrai nom David Litavicki, c'est dur à dire. Il fait de la chanson punk hip-hop et son premier album autoproduit portait le doux nom de « Déchire mon crâne et gratte ma cervelle avec un coupe-ongle ». Voilà, c'est tout un programme. Il sera en concert à la Bobine samedi 14 mai à partir de 19h30. C'est à prix libre. On écoute « Le doute est viral » de Bleu Russe.
Colère est un incendie de forêt déclenché par des braises d'espoir. Épuisé puis c'est marre, épiderme et puis merde. Ta mère en skate, étalons la bite dans les talons. Anti-sang froid, tu perds ton social. L'épée des mœurs pour que le sida vive. Le père se noie dans ses rives. La fille se rase la tête et ressuscite le frère. Incroyable non, monde famille à la merde. Beurre à l'amiante, ambiance à la peur. Avec la carte de fidélité, la dixième dépression offerte. Salade, tomate, oignon, faut bien la bouffer, la leçon. Et ce point de vue de pauvre taré, je préfère pleurer que d'avoir à mentir. Même si la vérité c'est comme sourire à un chien. C'est beau mais ça sert à rien. C'est un trèfle à trois feuilles. C'est normal, ça dort mal. Paralysie du sommeil, des fourmis dans la bouche, de mercure et d'eau froide. Le visage au valium empaillé dans chaque meubles. Quand je casse, je ramasse. Quand je me ramasse, on me casse. L'erreur est dans la glace. Quand je casse, je ramasse. Quand je me ramasse, on me casse. L'erreur est dans la glace. Quand je casse, je ramasse. Jamais sous-estimer la force de la faiblesse. De la suie sur les mains, de la sueur à toute heure. On n'est pas là pour gagner du temps mais du client. Vendre un ours et le tuer plus tard. Pas de sentiment pour un centime. Assassiner la ville et vomir de la bile. Les ailes coincées dans la manivelle. Essuyer son mouchard au mouchoir. Caler son cœur dans un bunker. Puer le poisson, ruer sur la moisson. Ben voyons, faut me consoler, faut me gifler. Faire la paix avec un stylo et me trouer la peau avec un stylet. La couleur du sang est la même pour tout le monde.
Une sirène sert le dessert au roi des singes sur un plateau en or. Cache ses problèmes dans un carton, déménage, plante le carton au grenier. Au bout de 6 mois, la trappe cède sous le poids. Le carton dégringole dans la zone de confort, s'ouvre et contamine le quotidien. Instaure le blocage général, cela part en couille d'un coup car personne dit rien tant le doute est viral. Tu m'entends, le doute est viral. Quand je casse, je ramasse. Quand je me ramasse, on me casse. L'erreur est dans la glace. Quand je casse, je ramasse. Quand je me ramasse, on me casse. L'erreur est dans la glace. Quand je casse, je ramasse. Quand je me ramasse, on me casse. L'erreur est dans la glace. Quand je casse, je ramasse.
Voilà, c'était le titre Le doute est viral du rappeur Bleu Russe qui sera en concert à La Bobine samedi 14 mai. Samedi dernier avait lieu à Nuit Debout l'Assemblée des Mal-Logés. Alors Nuit Debout, c'est ce village un peu associatif, enfin pas vraiment associatif, ce village de lutte qui s'est créé sur le parvis de la MC2 suite à la mobilisation contre la loi travail. Et donc il y avait samedi après-midi l'Assemblée des Mal-Logés. Morgane, tu y étais. Qu'est-ce qui s'est raconté là-bas?
Alors voilà, l'Assemblée des Mal-Logés qui s'est tenue à Nuit Debout, c'était d'abord une forme de soutien d'une mobilisation qui est très présente depuis des années sur Grenoble au mouvement Nuit Debout, parce que effectivement, le mouvement est peut-être en danger, dans le sens où la mairie a demandé, notamment lundi, avoir les suites, mais de quitter le lieu, qu'ils ne soutiendraient plus. Alors, ils l'ont demandé de manière plutôt tranquille, sans mettre la pression.
Je crois qu'ils ont réclamé un projet, en fait, finalement. C'est-à-dire que les gens de Nuit Debout puissent fournir une forme de projet. Et après, finalement, le campement, qu'est-ce qui peut advenir, ou finalement, vers quoi ils veulent aller.
D'accord. Donc, dans ce contexte de remise en question de l'occupation, de la présence et du soutien, d'une forme de soutien politique, l'Assemblée des Mal-Logés s'est tenue samedi après-midi pour agrémenter en débat politique cette présence, cette mobilisation Nuit Debout, et aussi attirer un certain nombre de militants qui sont en action depuis des années, voire des dizaines d'années, et transmettre une certaine connaissance de cette lutte à des personnes qui sont moins averties, d'avoir un débat sur l'espace public. Au niveau des interventions, c'était plus ou moins préparé. Il y avait des intervenants qui venaient de l'association Droit au Logement, le DAL, qui s'est mis en place, qui existait auparavant sur Grenoble, mais qui s'est remis en place cette année. Il y avait également des membres d'autres collectifs présents, qui sont actifs depuis longtemps sur Grenoble. Et également des personnes anciennement travailleurs sociaux, notamment au 115. Je ne connaissais pas tout le monde, mais dans les interventions, on a pu avoir une petite simulation de ce que représente la part du loyer sur un revenu comme un SMIC à temps plein, ou ce que ça représente pour quelqu'un au RSA qui ne peut pas accéder à de l'emploi. Et donc un calcul aujourd'hui du coût de la vie et de finalement ce constat que malgré les aides qu'on peut avoir de la CAF, les APL, etc., on n'arrive pas à boucler, ou en tout cas c'est tellement juste que le moindre coup dur peut nous mettre face à des situations d'impayés de loyer et de risques d'expulsion.
Oui, d'ailleurs, cette part trop importante du loyer dans le budget est dénoncée depuis pas mal d'années par toutes ces associations-là, puis notamment par par Emmaüs, ce
genre d'association. Un toit pour tous.
Un toit pour tous peut-être, mais par Emmaüs notamment.
La Fondation Abbé Pierre.
La Fondation Abbé Pierre, voilà, ouais.
Oui, oui, bien. De toute façon, l'augmentation de la précarité, le fait que les salaires n'augmentent pas, mais que le prix du foncier et de l'immobilier ne cesse de croître. Alors, ne cesse, il y a des aléas, hein, mais globalement, c'est ce qui se passe. Et le coût de la vie, de la nourriture aussi. Donc, voilà, c'est cette augmentation de la part du loyer sur les revenus crée finalement des situations de précarité assez importantes aujourd'hui. Et donc voilà, donc on a eu cette simulation, on a parlé de la peur des bailleurs d'avoir des personnes du coup qui ne payent pas, et du ce choix de mettre à la rue, enfin en tout cas d'expulser des logements du parc social des personnes qui sont plus en mesure de payer. Il y a eu aussi des interventions sur les comportements illégaux des pouvoirs publics dans un certain nombre de cas. Par exemple, le fait que quand on dépose un dossier de demande de logements sociaux, on a un numéro unique qui, oui, qui est donné. Et en fait, certains pouvoirs publics ont redonné au bout d'un certain nombre d'années des numéros à des personnes pour dire « mais non, regardez, votre demande est date d'un an » alors que la personne, en fait, était en demande de logement social depuis 5 ans. Mais en demandant de refaire des papiers, ils arrivaient à faire changer. Voilà. Donc il y a ce genre de procédure. Il y a été évoqué aussi des non-respects de jugement des tribunaux, d'obligation de la préfecture à payer des loyers pour permettre à des personnes d'être maintenues dans les logements et que malgré la décision du tribunal, ce n'était pas respecté. Donc il y avait des expulsions. Voilà, donc voilà ce qui a été discuté. Et il y a également eu une intervention sur la situation de la rénovation urbaine qui génère un certain nombre de déplacements de personnes, oui, de logements qui étaient donc occupés, qui deviennent vacants. Sauf que la durée des travaux finalement crée un vide pendant beaucoup de temps et parfois les travaux ne commençant pas, les bailleurs ne remettent pas de personnes parce que ce serait trop dur à gérer, mais en même temps on a un nombre de logements sociaux vacants qui est très très important pendant ces périodes-là. Et aussi une politique du logement social. Donc ça c'est voilà, il y a eu tout un mouvement autour des deux montées, le 10 et le 20, on en avait déjà parlé sur la galerie de l'Arlequin, qui va passer en fait de logement très social à l'accession sociale à la propriété. Donc en fait, c'est une forme de privatisation du logement social et il y a une politique nationale qui, voilà, qui va plutôt dans ce sens-là.
Voilà. Juste pour faire une aparté sur la rénovation urbaine, je lisais une interview de Marie-Hélène Baquet, qui est donc une sociologue connue notamment pour avoir écrit le rapport qui porte son nom, le rapport Mechmash-Baquet avec Mohamed Mechmash, fondateur d'Assez-le-Feu, et qui disait que le problème avec la rénovation urbaine, c'est qu'on construit des nouveaux appartements, mais plus petits et plus chers, puisqu'on ne peut plus construire comme on pouvait pour les coûts des années 80 ou dans les années 70 et 80.
Bah, de fait, le coût du foncier ayant augmenté, c'est impossible en fait.
Donc les gens qui se font expulser de leur immeuble en rénovation se retrouvent avec un logement voilà, plus petit et pour au mieux le même loyer.
Alors attention, c'est pas expulsé, c'est relogé.
Oui. Transitoirement.
Voilà.
Il y a l'idée aussi d'avoir des pratiques sur les tarifs qui augmentent en fait une fois que la rénovation urbaine est passée par là. On a des logements plus neufs, on va dire, refaits à neuf. Et finalement, ce n'est plus les mêmes couches de population qui peuvent se payer ces appartements-là.
Tout à fait. Alors en fait, ça vient donc d'une politique longue du logement social qu'on ne va peut-être pas aborder aujourd'hui, mais qu'on pourrait développer une autre fois sur ce passage des aides de l'État, comment elles sont réparties et qu'est-ce qu'elles soutiennent dans la production du logement social. Moi, là où je voulais vous amener aujourd'hui, c'était plutôt sur une histoire des luttes pour le droit au logement. Donc le droit au logement, c'est un droit qui est inscrit dans la Constitution. Alors il y a deux alinéas du préambule de la Constitution, le 10e et le 11e, je vous les ai préparés. Donc le 10e dit « La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ». Et le 11e alinéa « Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ». Alors voilà. il est un peu plus long cet alinéa, mais voilà, tout ça pour dire que ça fait partie de notre constitution, que ça fait partie des droits fondamentaux, des droits de l'homme, etc. Mais bien sûr, ceci étant dit, il n'y a pas de sanction vis-à-vis de l'État si ce droit-là n'est pas respecté. Donc, dans ce sens-là, pour avancer sur la question du droit au logement, il y a une loi qui est souvent appelée, qui s'appelle la loi Besson, qui est une loi qui date de 1990, qui visait à renforcer la mise en œuvre du droit au logement par le fait d'imposer, non pas de respecter ce droit, mais de garantir des aides pour l'accès à ce droit. Donc voilà, donc je crois que ce qui était cité, que j'ai trouvé, c'est « garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation ». Et donc voilà, déjà en 90, on tendait à être plus effectif dans l'application de cette loi. Derrière, il y a eu... je peux vous parler de la loi de solidarité et du renouvellement urbain de 2000, qui notamment a imposé ce qu'on connaît, le pourcentage de logements sociaux de 20%, pour les communes de plus de 3500 habitants situées dans une agglomération de plus de 50 000 habitants. Voilà, donc avec toutes les histoires de triche qu'il a pu avoir, ce pourcentage est passé à 25% en 2013 avec la loi Duflot. Voilà, donc ça, un peu des lois qui sont allées dans l'avancée de l'application du droit au logement. Et alors, voilà, il y a une loi qui s'appelle la loi Dalo, droit au logement opposable. C'est-à-dire qu'en fait, on donne un outil juridique aux personnes pour pouvoir demander à la préfecture de faire respecter leur droit au logement. Donc on peut, de soi-même, retirer le dossier et demander une instruction par rapport à sa situation pour obtenir un logement. Donc c'est un outil juridique au service du droit au logement. Voilà, donc pour finir là-dessus, cette loi Dalo, derrière, il y a tout un mouvement qui a existé, qui a abouti à cette loi en 2006, qui a été faite par Chirac un peu juste avant de laisser de passer la main. Et derrière, il y a le DAL, la Fédération des comités de droit au logement au niveau national. Il y a également ce qu'on appelle ATD Quart-Monde, qui est aussi un mouvement contre la misère. Voilà, qui sont des histoires assez passionnantes. Et il y a également la Fondation Abbé Pierre, avec le mouvement Emmaüs et le soutien aux mal logés. Bon, voilà.
L'histoire du droit au logement est riche.
Oui, l'histoire du droit au logement est riche et aussi pleine d'aventures médiatiques qui pourraient être décortiquées ici, mais qu'on ne fera pas. On se souvient des tentes
d'Augustin Legrand, là, sur le canal Saint-Martin.
Tout à fait. Tout à fait, et ça fait partie des actions qui ont porté à la création de la loi Dalo, notamment.
Eh bien, merci Morgane pour ce bref rappel historique du droit opposable au logement. C'est la fin de cette émission. Aura des rues fait une pause. Nous ne serons pas là la semaine prochaine pour cause de jours fériés. Et on se retrouve donc prochaine émission le mercredi 25 mai. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
C'était Au ras des rues, l'émission qui, espérons-le, vous a fait prendre de la hauteur sur Radio Kaléidoscope 97 FM. À la prochaine. Yeah. Yeah.